Le journal de la rédaction vous est présenté par Tara Schlegel. Bonjour Tara.
Bonjour Géraldine, bonjour à tous. Le gouvernement précise ses intentions en matière fiscale. Le Premier ministre a voulu déminer le terrain. Il affirme que les cotisations sociales des salariés vont bien baisser de façon substantielle dès le début de l'année prochaine. Explication de Marie Viennot. Benoît Hamon en visite chez les Verts. Le parti tient ses journées d'été à Dunkerque où se trouve pour nous Sophie Delpont. Dans cette édition, nous reviendrons sur l'exil de l'opposante vénézuélienne Luisa Ortega qui s'exprime depuis le Brésil avec Nadine Epstein. Et puis sur la présence des nanoparticules qui n'est toujours pas indiquée sur les emballages, des bonbons et autres chewing-gums. Une étude de 60 millions de consommateurs le révèle. Et puis, ce sera la grande table d'été avec vous, Géraldine Mosna-Savoie, à partir de 12h45.
Oui, au menu aujourd'hui, comme tous les jours, eh bien, une table ronde et un portrait. Une table ronde en première partie, ce sera Malaise dans l'agriculture et Animal-être à l'occasion de la sortie du film Petit Paysan d'Hubert Charuel et du livre V comme Vegan de Théo Ribeton aux éditions Nova. Et en seconde partie, changement de décor avec le portrait de l'actrice Catherine Froh qui a carte blanche pour la première édition des Variations classiques d'Annecy.
À tout à l'heure, Géraldine. La rentrée sociale sera-t-elle brûlante? Nul ne peut encore le dire. Le travail sur les ordonnances se poursuit au cabinet de Muriel Pénicaud. La CPME et Force ouvrière y sont cet après-midi. Aucun syndicat pour l'instant n'a claqué la porte. Hier, Bercy a tout de même refroidi le climat général. Le ministère du Budget a expliqué que la diminution des cotisations sociales sur les salaires allait être étalée dans le temps. En clair, le gain de pouvoir d'achat espéré dès le mois de janvier ne devait plus se faire que progressivement. Bonjour Marie Viennot.
Bonjour Tara.
Il y avait une véritable incertitude sur l'ampleur de cette baisse qui doit compenser, on peut le rappeler, la hausse de la CSG qui aura lieu dès le 1er janvier. Et le Premier ministre s'est dépêché ce matin de donner des détails. Il était sur RMC BFM TV, un peu comme si les arbitrages, Marie, avaient été pris dans la nuit.
Oui, certains ont été pris dans la soirée, m'a-t-on dit au ministère des Comptes Publics, celui qui gère le dossier. En tout cas vis-à-vis des médias. En fin d'après-midi, ce même ministère m'avait assuré par mail que mes demandes de précision étaient bien prématurées et qu'il fallait être patiente. Mais la pression médiatique a poussé donc Matignon à arbitrer plus vite et à communiquer dès ce matin sur RMC. Ce qui est sûr dorénavant, c'est donc que les malades, les chômeurs et les retraités qui touchent des petites retraites ne verront pas leur taux de CSG augmenter et que la baisse des cotisations salariales au 1er janvier sera effectivement supérieure à la hausse de la CSG. On va les baisser de plus de 2 points au 1er janvier, a dit le Premier ministre. 2,1, 2,03, 2,62, ça, cela reste à arbitrer, mais en tout cas, c'est sûr, ce sera plus que les 1,7 points d'augmentation de la CSG et donc au final, il y aura un effet sur la fiche de paye dès le début de l'année. Reste cependant toujours plusieurs enquêtes. Question en suspens, les compensations offertes aux fonctionnaires qui ne sont pas concernés par la baisse des cotisations salariales qu'ils ne paient pas et pour les pensions d'invalidité. Ces pensions sont versées à un peu plus de 900 000 personnes en France, des personnes qui ne peuvent plus travailler, temporairement ou définitivement. Le taux de CSG actuellement est de 6,6%. Va-t-il être concerné par la hausse? Demande Jean-Jacques Bourdin de RMC avec insistance. Réponse du Premier ministre en plein arbitrage personnel.
Si vous m'autorisez à vérifier ça pendant la pause, je vous réponds après la pause.
Ah bon.
Il
y a tellement de chiffres, remarquez.
Il y a énormément de chiffres, j'essaie de les avoir en tête. Oui. J'avoue bien humblement que parfois, ils peuvent m'échapper. Je préfère ne pas vous donner
c'est
de choses.
Hein.
Permettez-moi de vérifier ça et de vous le dire très rapidement.
Alors, la pause passée, on apprendra que suspense. Ce n'est pas encore décidé. Ce qu'il fallait donc retenir de cette intervention médiatique, c'est, croyez-nous, le pouvoir d'achat va vraiment augmenter dès janvier. Mais pour les détails, encore un peu de patience.
Merci Marie Viennot. Et puis, assez flou encore sur ce dossier, le Premier ministre Édouard Philippe a promis un plan étudiant qui comportera lui aussi un volet pour le pouvoir d'achat et qui sera présenté par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal, présenté prochainement. Donc, le gouvernement prépare la rentrée, le budget et le reste du spectre politique pense encore les plaies de sa défaite électorale. On l'a dit, les grands partis ont renoncé. Le PS a son université d'été à La Rochelle. Le Front National ne fait rien. Les Républicains montent juste quelques campus d'été en région. Seuls les Insoumis organisent un vrai rassemblement à Marseille et les Verts, pourtant en mauvaise posture, ont réuni eux leurs troupes à Dunkerque. À partir d'aujourd'hui, vous y êtes pour nous, Sophie Delpont. Bonjour.
Bonjour.
Deux invités importants ce matin pour Europe Écologie Les Verts, un parti que par ailleurs 40% de ses militants a déserté. Deux invités, donc Mathieu Orphelin, passé chez les macronistes, et puis Benoît Hamon, l'allié socialiste malheureux de la présidentielle. Benoît Hamon qui était très attendu, Sophie.
Oui, très attendu, disons que c'était plutôt mesuré, hein, l'accueil qu'il a reçu à la tribune tout à l'heure. Un accueil plutôt bienveillant, mais mesuré pour l'ancien candidat à l'élection présidentielle pour lequel Yannick Jadot s'était désisté avec un résultat très décevant dans les urnes. Benoît Hamon, qui a depuis fondé son mouvement du 1er juillet et qui cherche à asseoir sa place à gauche.
On est en pleine recomposition du paysage politique. Les élections législatives n'ont pas, absolument pas figé ce que seront demain les grands clivages politiques. Le sujet, c'est pas de savoir qui sera avec qui ou qui n'est plus avec qui, mais de savoir autour de quelles questions la gauche doit faire sa révolution, en fait, comme le centre droit l'a fait avec La République en marche. Et va se poser la question de savoir autour de quelles questions politiques fondamentales les Français se détermineront et choisiront entre des visions différentes de l'avenir. Je suis venu parler évidemment écologie, mais aussi travail, démocratie, dans la continuité de certains combats politiques que j'ai pu mener pendant l'élection présidentielle, avec beaucoup d'écolos d'ailleurs. Réfléchir à la nouvelle protection sociale, au nouveau rapport au travail que l'on doit avoir. Les électeurs nous ont donné du temps, nous comptons l'utiliser pour travailler sur le fond.
À l'Europe Écologie Les Verts, qui dans une situation politique et financière très difficile. Pourtant, les partis ne sont pas la priorité aujourd'hui pour Benoît Hamon. David Cormand, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, a affirmé « Nous avons plus le temps d'être médiocres ». Il a par contre mis en garde Benoît Hamon, pas question de se ranger derrière un leader. Il l'a dit en marge de cette prise de parole. Il a également mis en garde contre l'attraction exercée vers les militants par la France insoumise.
Merci. Nous ne cherchons ni homme ni femme providentielle. Car comment construire le mouvement du commun autour de la volonté d'un seul? L'expérience du Venezuela, qui fascine tant certains, devrait nous vacciner contre toute forme de recours à l'incarnation révolutionnaire. Nous ne cherchons César ni tribun. Nous devons faire émerger une nouvelle génération capable de peser sur le cours des choses, moins préoccupée de son destin politique personnel que de l'avenir de notre société.
Pour définir l'espace politique également autour de la table, la députée européenne communiste Marie-Pierre Vieux ainsi que l'ancien écologiste Mathieu Orphelin, un nouveau député La République En Marche. Benoît Hamon, lui, enverra un représentant au Carrefour des Gauches organisé par le Parti communiste. Ce sera demain, pas directement, pour des raisons d'agenda.
Merci beaucoup Sophie Delpont, donc en direct de Dunkerque. À l'étranger, l'Angola attend le résultat des législatives d'hier. Le vote s'est déroulé sans incident majeur, pas beaucoup de surprises à attendre. Le président Dos Santos a verrouillé le scrutin. Son dauphin, ancien général, devrait sans surprise l'emporter. On part maintenant pour l'Amérique latine, singulièrement le Brésil, où Luisa Ortega a prévu de passer quelques jours. Cette magistrate, qui est devenue ces derniers mois l'opposante numéro 1 au Venezuela, a tenu hier une longue conférence de presse à Brasilia. Donc, elle y a une fois encore dénoncé les dérives autoritaires de son pays. La dictature qui s'installe avec le président Maduro. Bonjour Nadine Epstein.
Bonjour.
Depuis qu'elle a été destituée de son poste de procureur général du Venezuela, le 5 août dernier, Luisa Ortega a décidé de fuir son pays, mais pas de se taire, Nadine.
Effectivement, la procureure de la République du Venezuela, Luisa Ortega, une fidèle du régime bolivarien depuis le début de sa carrière, avait été limogée le 5 août dernier par la nouvelle Assemblée constituante de Caracas. La magistrate avait déclaré inconstitutionnelle l'usurpation des pouvoirs des députés en mai dernier. Luisa Ortega faisait l'objet d'une interdiction de quitter le territoire. Son époux, le député chaviste Germán Ferrer, était visé par un mandat d'arrêt lancé par les autorités vénézuéliennes. Depuis la levée de son immunité parlementaire et le procès qu'envisageait contre elle la justice au motif supposé de son implication dans un réseau d'extorsion de fonds, la magistrate a entrepris avec ses proches collaborateurs une évasion éclair le 18 août pour la Colombie. Hier, vous l'avez dit, invité à s'exprimer devant les procureurs des pays du Mercosur réuni à Brasilia, Luisa Ortega a accusé le gouvernement vénézuélien de mener une chasse aux sorcières, d'appauvrir le pays et d'être corrompu. C'est la mort du droit, la stabilité de la région est en danger et les Vénézuéliens souffrent, a déclaré la magistrate, qui assure détenir les preuves de l'implication du président Maduro dans un scandale international de corruption, le versement de pots de vin aux partis et aux dirigeants politiques par le premier groupe industriel de construction d'Amérique latine, le Brésilien Odebrecht Odebrecht, présent dans 28 pays dont le Venezuela, la Colombie, le Pérou et les États-Unis. Mais enfin, l'attitude radicale du pouvoir vénézuélien aggrave la vie quotidienne de la population. Selon le Forum pénal vénézuélien, outre la centaine de morts pendant les manifestations, il y a eu plus de 5000 arrestations arbitraires. Le nombre de prisonniers ne cesse d'augmenter. 9 Vénézuéliens sur 10 déclarent ne pas pouvoir acheter la nourriture ou les médicaments dont ils ont besoin.
Merci Nadine Epstein. C'est tout simplement la plus grande base de données biométriques au monde. Elle se trouve en Inde où depuis 2009, les gouvernements ont tenté et réussi d'ailleurs, tenté d'enregistrer des informations personnelles sur la quasi-totalité des citoyens. Aujourd'hui, 1 milliard 171 millions d'Indiens sont répertoriés dans cette immense base de données nommée Aadhaar, qui n'est pas sans poser de problèmes éthiques. Une décision de la Cour suprême indienne vient justement de se pencher sur cette question et donne raison aux opposants à cette base. Antoine Guinard, vous êtes à New Delhi. Antoine, la plus haute juridiction indienne a donc penché en faveur du respect de la vie privée qui devient un droit inaliénable inscrit dans la Constitution indienne. Comment interpréter cette décision ?
Pour les juges de la Cour suprême, le droit à la vie privée fait, je cite, « intrinsèquement partie de l'article 21 de la Constitution indienne qui régit les libertés individuelles ». Cette décision renverse deux jugements rendus par le passé par la plus haute instance de justice du pays qui n'avait alors pas considéré la vie privée comme un droit fondamental. La presse indienne s'accorde à dire que cette décision pourrait mettre à mal la base de données biométriques Aadhaar, la plus vaste au monde, initiée il y a 8 ans par le gouvernement indien. La création de la carte Aadhaar, la première carte d'identité indienne, nécessite la numérisation des empreintes digitales et de l'iris, procédé auquel s'est maintenant soumise la quasi-totalité de la population indienne adulte. À l'origine, cette base de données avait pour but, selon les autorités indiennes, de combattre la corruption en permettant une distribution plus sûre des subventions et des allocations publiques aux bénéficiaires. Mais depuis 2 ans, cette carte d'identité dont l'obtention ne devait pas être obligatoire au départ est devenue indispensable pour l'ouverture d'un compte en banque, pour remplir sa feuille d'impôt, pour faire un emprunt à la banque ou encore lors d'une dépense de plus de 660 euros. L'argument principal de ceux qui militent pour le droit à la vie privée était que le système Aadhaar permettait de dresser un portrait des citoyens et de leurs habitudes de consommation. De son côté, le gouvernement a tenté de faire valoir que comme les citoyens n'avaient pas de droit absolu sur leur corps, il était donc légal de récolter leurs données biométriques sans leur donner le choix. En mai, les données de 130 millions de citoyens indiens, dont des numéros de compte en banque, s'étaient retrouvées sur le net après une fuite massive de la base de données Aadhaar. Ce scandale avait fait la lumière sur la non-protection des données personnelles avec ce passage obligatoire au biométrique.
Antoine Guinard, en Inde, dans le reste de l'actualité, en bref, le gendre et haut conseiller de Donald Trump, Jared Kushner, est au Proche-Orient. Il voit Israéliens et Palestiniens pour tenter de relancer un processus de paix qui est au point mort. Et puis, le Qatar annonce le retour de son ambassadeur en Iran, le rétablissement aussi des relations diplomatiques totales avec la grande puissance chiite de la région. Voilà de quoi froisser un peu plus encore l'Arabie saoudite qui a mis le Qatar au banc des nations arabes, l'accusant de soutenir le terrorisme et qui voyait déjà d'un mauvais œil sa collaboration avec Téhéran. En France, EDF vient d'avouer avoir transmis de nouveaux documents compromettants sur l'usine du Creusot qui forge des composants pour les installations nucléaires. L'électricien a envoyé à l'autorité de sûreté nucléaire des indications sur des anomalies qui n'avaient pas encore été répertoriées. On se souvient que la cuve du réacteur de l'EPR de Flamanville présente déjà des anomalies et Areva a dû mettre l'usine du Creusot à l'arrêt l'année dernière. Ces nouvelles anomalies n'ont aucun impact sur la sécurité des sites nucléaires, affirme toujours EDF. On s'arrête maintenant sur cette étude de 60 millions de consommateurs qui montre que l'industrie agroalimentaire n'applique toujours pas la réglementation sur les nanoparticules. Théoriquement, le consommateur doit pouvoir savoir que les produits qu'il achète contiennent ces substances microscopiques qui ne sont pas forcément inoffensives. Bonjour Hakim Kasmi.
Bonjour Tara.
Alors c'est le cas notamment de l'additif E171 qui contient du titane, parfois en grande quantité, Hakim.
Et oui, malgré un rappel en mai dernier, sous la forme d'un arrêté de Ségolène Royal, encore ministre de l'écologie, et d'un règlement européen datant de 2014, rien n'y fait, une partie des industriels de l'agroalimentaire, ne met toujours pas cette mention sur leurs emballages. Pour rappel, les nanoparticules sont des additifs que l'on trouve notamment dans les gâteaux et les bonbons. Pour réaliser son enquête, 60 millions de consommateurs s'est appuyé sur un échantillon de 18 produits sucrés. Mais voilà, l'étude révèle que ces articles articles contiennent bien du E171, alors que leurs emballages, ceux qui ont été testés, indiquent qu'il n'y en a pas. Du coup, eh bien, si la tolérance réglementaire pour cette substance microscopique doit être inférieure à 100 nanomètres de diamètre, la revue indique que la plupart des produits testés, eh bien, dépassaient le minimum légal d'environ 20%. C'est notamment le cas des desserts glacés de la marque Monoprix Gourmet, où le record absolu étant même pour, eh bien, les mini mammouths de la marque Candy. Alors, si pour l'instant, l'innocuité de cette substance reste encore à établir, les interrogations, elles, subsistent, puisqu'il faut savoir que selon une étude menée par l'IRA, l'Institut National de Recherche Agronomique sur des rats, eh bien, la moitié de ces rats, eh bien, ont eu des lésions cancéreuses en ayant ingéré cette substance.
Merci, Hakim Kesmi. Le temps qu'il va faire aujourd'hui, un temps mitigé, notamment sur le sud-ouest et la moitié est de la France où des orages sont annoncés. Partout ailleurs, le soleil devrait se montrer dans l'après-midi. C'est la fin de cette édition préparée avec Yacine Bouzard.